C'est une armée qui est bien formée pour le combat et pas du tout formée pour le maintien de l'ordre. Si vous regardez par exemple les opérations de l'armée tchadienne aux côtés de l'armée française au Mali, ils ont été excellents. Ce sont de bons combattants, de bons guerriers, ils sont bien formés militairement. Mais le maintien de l'ordre, c'est pas du tout ça. Et surtout, le maintien de l'ordre en République centrafricaine est très difficile. Parce que vous avez non pas des manifestants comme on aurait en Europe des armées, mais vous avez des gens qui eux-mêmes sont des manifestants souvent armés.
Quelle est la conséquence de ce retrait tchadien de Centrafrique sur la suite des opérations, sur le maintien de l'opération française menée par les Français ?
C'est un affaiblissement. Mais les Tchadiens se sont toujours mêlés des affaires de la Centrafrique d'une manière très souvent exagérée. C'était le cas à l'époque de la présidence de Patassé. Ils considèrent un peu ce pays comme une sorte de satellite. Il faut dire que la Centrafrique est dans un tel état de déshérence et de désagrégation et de catastrophe permanente que n'importe qui a un peu de force a l'impression que ce machin-là lui appartient. Et ça a été l'attitude tchadienne vis-à-vis de la Centrafrique. Alors maintenant, bon, c'est un peu aussi une attitude de chantage, une manière de dire aux Français, vous avez besoin de nous, ben, si vous voulez vraiment mal nous traiter, nous nous retirons et vous êtes bien embêtés.
Mais est-ce que Paris a les moyens de faire revenir les Tchadiens en Centrafrique ?
Oh, peut-être. Ça sera une histoire de marchand de tapis. On discutera ça comme on discuterait le prix d'un article au marché.
Au final, à la lumière de ce retrait tchadien et des mauvaises nouvelles évidemment qui viennent quasiment quotidiennement de Centrafrique, quelles perspectives on peut tracer pour l'avenir de ce pays, pour la pacification de ce pays ?
Oh, c'est de la bouillie pour les chats. La Centrafrique n'existe pas, c'est ça le problème. C'est une espèce de trou noir. Si vous relisez l'extraordinaire livre d'André Gide à écrire en 1928 qui s'appelle « Voyage au Congo », et quand il parle du Congo, c'est pas le Congo, c'est la Centrafrique, parce que la Centrafrique existe tellement peu que même à l'époque coloniale, elle n'a pas eu de définition administrative bien claire. Par moments, on disait c'est le Congo, par d'autres moments, on disait c'est le Tchad, après on a appelé ça l'Oubangui-Chari, c'est n'importe quoi la Centrafrique. Ça n'a aucune cohérence ni cohésion. Ça a été colonisé en dépit du bon sens, même pas par la France, mais par ce qu'on a appelé les grandes compagnies concessionnaires, qui étaient des bandits qui ont pillé le pays au nom de la France, mais en empochant l'argent. Et ce pays est une catastrophe permanente. Il n'a jamais été autre chose.
Vous nous dites finalement qu'il faut se replonger dans les livres d'histoire et que tous les efforts entrepris actuellement sont parfaitement vains ?
Non, ils ne sont pas parfaitement vains. Mais on essaye, si vous voulez, on est en face de quelqu'un qui est atteint d'un cancer en état avancé et que l'on soigne avec des pilules d'aspirine. Et ce cancer, il remonte à la période coloniale. On n'en parle jamais parce que c'est le fait de tout un débat politique à l'intérieur de la France sur qu'est-ce qu'a été la colonisation. Mais la colonisation n'a eu aucune homogénéité. Il est bien évident que ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et où il y avait œuvre créatrice de colonisation positive, ça n'a rien à voir avec le débris qu'était le pauvre Oubangui-Chari.